D'abord, on vous remercie d'avoir fait l'effort de venir. Pour la publication de cette note, comme vous le savez peut-être, donc la CDC a repris, disons, cette publication dans la perspective de chaque trimestre de fournir des éclairages sur à la fois les chiffres du chômage, c'est-à-dire les chiffres de l'enquête emploi. C'est pour ça que la publication de notre note est calée sur la publication des chiffres de l'enquête comme celle de ce matin, et puis celle des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Donc ça, c'est le côté statistique sur lequel je reviendrai brièvement. Et puis, surtout, d'accompagner à chaque fois ce commentaire des chiffres par une petite note thématique sur un sujet qui nous semble important et soit maltraité, en quelque sorte, soit passé sous silence dans la question de l'emploi et du chômage. Donc, je vais être très bref. Alors, comme vous pouvez le constater, cette fois-ci, il n'y a pas notre petite information chômage, c'est-à-dire les deux pages statistiques dressant un bilan des chiffres de l'enquête emploi et des statistiques de Pôle emploi. La raison est simple, c'est que dans la publication des chiffres ce matin, qui intervient maintenant à 7h30 le matin, quand on connaît bien un petit peu le site INSEE et qu'on va chercher dans les explications, on voit qu'il y a eu des changements de définition sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais on peut les dire brièvement. Il y a deux changements de définition, un qui porte sur la façon de considérer l'âge. En résumé, on n'est plus sur une notion d'âge en fin d'année, mais sur une notion d'âge courant. Voilà. Bon, ça change un peu les choses, notamment évidemment pour les catégories extrêmes, les plus jeunes et les plus vieux. Et puis, deuxième changement, sur la façon de classer les stagiaires dans la population active ou non. Auparavant, si j'ai bien compris le complément méthodologique de la MTNC, ils étaient tous classés dans la population active. Désormais, n'y seront que ceux qui sont rémunérés. Vas-y, je complète.
C'est auparavant étaient classés dans la population active les stagiaires qui effectuaient une activité comparable à celle, similaire à celle de leurs collègues. Et maintenant, sont classés dans la population active les stagiaires qui font une activité rémunérée.
Voilà. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît.
Oui, pardon, oui, on aurait dû.
C'est pas grave. Voilà.
Ludovic Bourlès de la CGT INSEE et la CDC, bien sûr.
Bonjour.
Bonjour.
Sylvette Usain-Chômeur du SNU Pôle emploi.
Et Pierre Concialdi du réseau d'alerte sur les inégalités.
Le changement que vous souvenez là, sur la prise en compte des stagiaires, c'est depuis la publication.
Les chiffres publiés aujourd'hui qui portent sur le premier trimestre 2011 adoptent ces nouvelles définitions. En plus, mais encore une fois, pour les chiffres publiés aujourd'hui, c'est le moment où l'INSEE prend en compte un certain nombre de révisions habituelles de ces séries. Des coefficients de variation saisonnière, des changements de pondération, des nouvelles estimations de population, etc. Donc, la résultante de tout un certain nombre de changements, qui sont à la fois des changements, on va dire, qui interviennent à la périodicité définie, la mise à jour de coefficients de pondération, mais aussi ces changements de définition, c'est la résultante qu'on observe dans les chiffres. Donc, c'est la raison pour laquelle on a préféré ne pas. De commentaires de ces chiffres à chaud sans avoir pu décortiquer un peu plus en détail quelles étaient les conséquences de ce changement, même si l'INSEE a pris le soin, apparemment pour la plupart des séries, de les rétropoler sur les trimestres antérieurs, ce qui fait qu'a priori on n'a pas, c'est le message de l'INSEE, ça change le niveau, disons, d'un certain nombre d'indicateurs, mais ça ne change pas les évolutions. Malgré tout, on préférait prendre d'une part le temps quand même de regarder un peu plus en détail, et d'autre part d'avoir une réaction sur la façon dont se fait ce changement. Et donc probablement, on publiera un communiqué de presse sur cette question dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, pour, sachant ça se relie à la question du chômage, mais pas seulement, qu'il y a aussi d'autres questions, disons, posées par la façon de communiquer les gouvernements, notamment lorsqu'ils brisent un certain nombre d'embargos. Alors c'est vrai pour les chiffres de chômage, mais pas seulement, sur la croissance. Enfin, je ne sais pas si tu veux ajouter un mot sur cette question.
Oui, ces derniers jours et dernières semaines, il y a eu des... François Fillon, Madame Lagarde ont brisé des embargos à deux reprises pour Madame Lagarde. Donc ça a concerné la croissance économique. Et pour Madame Lagarde, par exemple, c'était l'estimation flash de l'emploi. Donc c'était il y a 10 jours à peu près. Donc, c'est en plein dans le sujet, puisque. Voilà. Donc, c'est extrêmement regrettable. Et au niveau. D'un point de vue intersyndical, c'est bien CGT, INSEE, mais avec d'autres syndicats de l'INSEE, des syndicats du ministère du Travail, des syndicats de Pôle emploi, enfin, en tout cas, au moins un, mais c'est plusieurs. On va faire une prise de position publique sur cette question-là. Bon, on est en train d'élaborer, donc on ne peut pas. Mais on verra.
Vous avez Bertrand aussi la semaine dernière.
Oui, vous avez Bertrand également.
Oui, mais pardon de mettre les pieds dans le plat, mais c'est vrai que c'est très agaçant, sûrement pour vous, encore plus pour nous.
Mais
en dehors du fait que ça vous donne un motif de rappeler les problèmes réels de l'INSEE, etc., je dois dire que c'est quand même un exercice. Régulier de tous les gouvernements depuis 30 ans. À chaque fois que les stats s'inversent ou sont bonnes, on a le matin de leur publication dans les radios, soit le chiffre tout proche. Mmh. Je veux dire, c'est quand même pas une grande nouveauté. C'est vrai que c'est très casse-pied, mais bon. Quel problème ça pose en dehors du fait que ça pose un problème du traitement de la com?
Il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec vous, c'est sur le fait que ça a toujours existé depuis 30 ans. Certes, il y a 30 ans, il y en avait. Par contre, ça s'est intensifié ces dernières années. Il n'y en avait pas autant, il y en avait beaucoup moins il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Il y a une quinzaine d'années, je travaillais au service de la conjoncture, il n'y avait pas des embargos qui étaient brisés quasiment tous les 4 matins.
De manière systématique.
Oui, c'est ça. Oui, ça pouvait arriver une fois. Il y avait, bon, je me souviens, sur un sujet que je traitais, bon, une fois, il y a eu un truc un peu bizarre qui s'est passé, mais bon, c'était une fois en 4 ans. Là, c'était sur le sujet que je traitais spécifiquement. Enfin, bon, c'est plutôt la comptabilité nationale trimestrielle. Mm-hmm. Mais moi, j'ai travaillé au chiffre du chômage à une époque. Il n'y en avait quand même pas tous les 4 matins. Maintenant, oui, c'est plutôt ça, c'est tous les 4 matins. Et il ne faut pas oublier qu'en 2007, la méthode a été modifiée en 2007 hein, aussi, juste donc les heures et dates de publication de certains nombres de données ont été modifiées justement sous prétexte d'essayer qu'il y ait moins d'embargos. Bon, en fait, ça n'a absolument pas empêché les embargos. C'est pas, la comparaison n'est pas non plus comparable à celle d'il y a 10 ans, ne serait-ce que parce qu'il y a eu un changement de méthode de diffusion des chiffres.
Écoutez, en 2007, pardon, je ne suis pas de droite, mais j'ai pas l'impression que c'était tellement mieux à gauche. Peut-être je me trompe.
Il y a 5 ans, c'était pas à gauche.
Je pense pas que ce soit une question de gauche ou de droite. Ce qu'on a très clairement vécu au moment de la création du collectif en 2007, c'est que là, il y avait systématiquement. L'embargo était brisé. Il y a des périodes où ça s'accélère. Effectivement, on peut trouver beaucoup d'exemples. On considère que c'est toujours condamnable. C'est pas l'étiquette politique du gouvernement qui rend les choses plus ou moins acceptables. Ça, c'est tout à fait clair. Et je peux peut-être m'exprimer plus librement pour l'instant, mais il n'y a pas de communiquer. Je pense qu'on sera sur le fond relativement d'accord. Ça contribue aussi à décrédibiliser la statistique publique, à la mettre sur un plan qui n'est pas... à la décrédibiliser. Et je ne vais pas remonter, on ne va pas faire le jeu des petites phrases, bon, il y a eu des ministres de l'économie qui ont occupé des peu de fonctions dans l'État, qui ont clairement attaqué le système statistique public. Et cette façon de procéder dans la diffusion d'informations participe de cette décrédibilisation. Donc nous, on ne cherche pas à critiquer les chiffres parce qu'on dit que tous les chiffres publiés par le système statistique sont mauvais. Au contraire, on est très attachés, on l'a toujours dit, à avoir un très bon système statistique public, le meilleur possible, mais pour informer le débat public, pas pour être au service de la communication gouvernementale, surtout dans les périodes préélectorales. Voilà, la statistique publique, pour nous, elle est au service de ce débat. Et ce qu'on essaye modestement de faire dans ce collectif pour la question du chômage et de l'emploi, c'est d'avoir un débat serein et qui ne soit pas complètement orienté par des déclarations gouvernementales prématurées. Voilà. Donc ceci, c'était juste pour expliquer la raison pour laquelle vous n'aviez pas de commentaires des chiffres INSEE qui sont parus ce matin. Vous en aurez, vous inquiétez pas. Mais bon, c'est assez simple. Le niveau du chômage reste très élevé. Pour la France métropolitaine, il n'y a pas de baisse du chômage. Pour la France entière, pardon, il n'y a pas de baisse du chômage. En revanche, c'est là qu'il faut peut-être analyser un peu plus en détail les conséquences des changements dont je parlais. Il y aurait une baisse du sous-emploi. Pour le chômage technique, c'est clair, elle était déjà amorcée sur le trimestre précédent. Mais pour le sous-emploi qu'on appelle, disons, de façon commune, le temps partiel subi, là, il faut voir de quelle façon, éventuellement, les changements de définition peut jouer. Voilà. Donc je referme cette grande parenthèse. Et donc, nous, ce qu'on vous proposait pour, comme sujet de réflexion et pour nourrir le débat aujourd'hui, c'était la question qui revient depuis quelques années, de ce qu'on appelle les emplois vacants ou des offres non pourvues ou non satisfaites, entre guillemets, ça dépend du vocabulaire, et de quelle façon cette question se relie ou pas à celle de ce qu'on pourrait appeler le chômage, entre guillemets toujours, volontaire ou pas. Donc, ce qu'on essaye de faire dans cette note, c'est d'abord d'essayer d'expliquer tout simplement de quoi on parle. Les emplois vacants, les autres emplois, qu'est-ce qu'on essaye de saisir et à partir de quels matériaux statistiques ? La notion des offres d'emploi vacants, elle est présente maintenant dans une enquête très vieille du ministère du Travail qui s'appelle l'enquête ACEMO, l'enquête sur les conditions d'emploi de la main-d'œuvre. Elle a été introduite relativement récemment, depuis 2003, et elle permet de fournir donc une mesure des emplois vacants qui est régulièrement reprise par Eurostat dans des statistiques trimestrielles. On va revenir sur les chiffres. Alors, il faut simplement préciser une chose, c'est la façon dont était appréhendée cette notion d'emploi vacant dans l'enquête. Notamment si on souhaite, et c'est souvent le cas, essayer de la rapprocher de la notion pas équivalente, enfin correspondante du chômage, par exemple. Donc on a repris les trois critères qui sont habituellement utilisés pour le chômage, c'est-à-dire les délais dans lesquels on doit être disponible, ou l'emploi pourvu. Donc ça, c'est ce que vous avez dans la page 2 de la note. Donc ce qu'on montre, c'est que ce critère-là est beaucoup plus flou ou moins net dans la prévention de l'emploi vacant que pour celle du chômage. Vous savez que pour être au chômage, il faut être disponible pour occuper un emploi. On peut avoir un emploi vacant qui peut être occupé ou non. En tout cas, ce n'est pas clair non plus dans la façon dont sont posées aujourd'hui ces questions. Et troisième critère que j'oublie. Oui, le caractère actif de la recherche. Vous savez que, alors, je sais pas si c'est une bonne occasion de rappeler que dans la définition qui a été adoptée par l'INSEE à l'automne 2008, dans la nouvelle définition du chômage, on a durci ce critère de recherche active pour les chômeurs, hein, en leur demandant non seulement d'être inscrit à la LPE ou à Pôle emploi, mais d'effectuer d'autres démarches. Ce critère reste du côté de l'entreprise, disons, qui propose des emplois vacants, beaucoup plus flou. Voilà. Donc, le ministère du Travail a procédé, est en train d'améliorer son enquête, etc. Mais pour l'instant, une notion quand même qui peut être relativement extensive par rapport à celle du chômage, encore une fois, la notion d'emploi vacant. Malgré ce caractère extensif, on fait le graphique qu'on donne dans cette note, le taux d'emploi vacant en France est un des plus faibles, si ce n'est le plus faible quasiment de tous les pays européens. Il est estimé à 0,4%, alors que pour la moyenne européenne, il est près de 4 fois plus élevé. En chiffre absolu, ça veut dire que dans l'enquête, sur le champ d'enquête qui ne couvre pas toutes les entreprises, qui couvre à peu près la moitié des salariés, on a environ 80 000 emplois vacants. Si on extrapole ce chiffre à l'ensemble de l'économie, avec un certain nombre de difficultés, parce que la notion d'emploi vacant, par exemple, dans la fonction publique, n'est pas si évidente à se dire que ça. Malgré tout, si on fait cette extrapolation, on aboutirait à environ 150 000 emplois vacants. D'accord ? Donc ça, c'est une notion qui repose sur des données d'enquête, qui est relativement bien cernée, qui peut être améliorée, comme toute question dans l'enquête, hein, c'est ce que je vous ai dit, mais qui délivre une première information qui ne signale pas de problème majeur de vacances d'emploi dans le cas français. L'autre façon d'appréhender cette question, c'est, là c'est davantage les chiffres qui sont mobilisés par le gouvernement dans sa communication, justement, ce sont les offres d'emploi déposées à Pôle emploi. Donc là, l'information, elle est très facile d'accès. Hein, sur le site de l'institution, on a le nombre d'emplois disponibles à un moment donné, avec éventuellement un détail. Donc on peut estimer le nombre d'offres ou d'emplois vacants qui correspondraient à ces offres d'emploi. Mais il faut pour ça protéger à certaines estimations parce que on sait que toutes les offres d'emploi ne transitent pas par Pôle emploi. La part de marché, entre guillemets, de Pôle emploi n'est pas de 100%. Il y a un certain nombre d'offres qui ne parviennent pas. Donc ça, on l'explique un petit peu, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais on explique un petit peu la façon dont on peut, au mieux ou au moins mal, appréhender cette part de marché et aboutir, comme ça, à une estimation plus globale du nombre d'offres, j'insiste, disponibles à un moment donné sur le site de Pôle emploi. Si on fait ce calcul, on est abouti à un chiffre qui est de l'ordre de 450 000 offres. D'accord ? Mais, encore une fois, c'est un chiffre qui, selon nous, en tout cas, repose sur des conventions qui sont moins robustes que celles de l'enquête ACEMO, qui, encore une fois, malgré ses limites, délivre un message qui, d'ailleurs, est très constant depuis qu'elle existe. Il n'y a pas eu de variation, on n'a pas observé de variation énorme, on ne met pas ça dans la note, mais du tout emploi vacant. Sur les dernières années, en tout cas depuis que les chiffres existent. Et par ailleurs, on n'a pas non plus observé de basculement significatif du classement des pays par rapport à ça. Et on arrive à une troisième notion. Alors, peut-être que là, on peut s'arrêter deux secondes s'interroger sur le fait de savoir si on peut considérer que derrière chaque offre d'emploi déposé à Pôle emploi, il y a vraiment un emploi vacant. Et donc là, je vais céder la parole à Sylvette Jean-Chauvin, qui, de l'intérieur, si vous voulez, va essayer de vous donner des informations sur la réalité de ce que recouvrent ces offres d'emploi.
Alors, dire qu'il n'y a pas nécessairement un emploi vacant derrière chaque offre, ça ne remet pas en cause, bien sûr, l'honnêteté du travail des agents, mais plutôt l'organisation, l'organisation du travail à Pôle emploi, la façon dont l'activité de Pôle emploi est évaluée, et en particulier, à l'heure actuelle, le sous-effectif également des agents. L'activité de Pôle emploi est évaluée en particulier sur le nombre d'offres d'emploi recueillies, dont le nombre d'offres d'emploi d'une durée supérieure à 6 mois. Il n'y a pas de critère de CDI, mais offre durable, c'est-à-dire plus de 6 mois. Cet objectif n'a pas diminué diminué depuis le début de la crise. Il est toujours le même. En même temps, dans tous les changements générés par la fusion, les changements de lieu, les changements d'organisation du travail, etc., la pression sur le nombre de demandeurs d'emploi que les agents ont à suivre, le non-renouvellement des CDD qui avaient été temporairement embauchés à Pôle emploi, l'activité des agents sur le recueil des offres et sur le traitement des offres a forcément diminué. Ils ne peuvent pas être à la fois sur le suivi des personnes et sur cette activité sur le traitement des offres. Et donc, ils ont été finalement amenés à recueillir des offres et à les enregistrer telles quelles, sans faire tout un travail qui normalement se fait de renégociation de l'offre, de discussion avec l'employeur sur les qualités pour le poste, sur la manière dont il sera pourvu, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y aura des offres d'emploi qui peuvent se retrouver en doublon, en quelque sorte, puisque vous savez que Pôle emploi passe régulièrement des conventions avec les agences d'intérim, lesquelles, très souvent, vont rediffuser les offres sur Pôle emploi afin d'avoir des candidats qui répondront à ces offres. Donc la même offre, l'employeur n'est pas tenu à un seul canal, bien entendu. La même offre peut très bien se retrouver à la fois prise par une agence d'intérim et diffusée en CDD à Pôle emploi. Dans les pratiques d'un certain nombre d'intermédiaires de l'emploi, tels que les agences d'intérim, les SS2I, il va y avoir aussi parfois la tentation de prolonger une offre d'emploi pour se constituer eux-mêmes un portefeuille de candidats pouvant répondre à des offres. Donc l'offre restera alors que parfois elle a déjà été pourvue. Et puis il y a toutes les plateformes téléphoniques, tous les lieux où il y a un turnover extrêmement important de salariés du fait des conditions de travail et qui eux vont déposer des offres. Alors ça peut être des offres en CDI, c'est même souvent le cas. Avec un volume très régulier, mais évidemment, ça n'indique que le turnover qu'il y a du fait des conditions de travail. Donc on a comme ça un ensemble d'offres d'emploi qui ne correspondent pas nécessairement à un emploi vacant. Sans compter à l'heure actuelle des offres qui ne correspondent pas à des emplois à proprement parler, puisqu'on va retrouver par exemple derrière certaines offres quelque chose qui est une proposition d'installation comme auto-entrepreneur. Voilà. Et donc gonflement de certaines offres. enfin de certaines offres, voilà, sans compter les offres d'emploi que l'employeur pourra retirer sans finalement avoir recruté par ce canal, soit parce qu'il a recruté en interne, ce qui est extrêmement fréquent. Et donc, recrutant en interne, il y a toute une reconfiguration des postes qui sont proposés, ce qui rend la comptabilisation extrêmement difficile de savoir où était le poste vacant véritablement. Ou alors qui sont retirés, par exemple, par cause d'intempéries du côté de l'agriculture ou du côté du bâtiment. Donc, on ne peut en aucun cas considérer que derrière chaque offre, il existe bien véritablement un emploi vacant, d'une part, et d'autre part, on ne peut pas non plus considérer que lorsqu'il y a une offre d'emploi non satisfaite, ça correspond à un refus. Un refus des demandeurs d'emploi de prendre cette offre.
Voilà, donc en conclusion, si vous voulez, de ce premier balayage de la façon d'appréhender la notion d'emploi vacant, ce qui ressort clairement, c'est que la statistique administrative, en l'occurrence, hein, celle de Pôle emploi, qui ressort ces emplois, est manifestement une mesure par excès de ce qu'on voudrait sans doute cerner de la notion d'emploi vacant. Donc la fourchette est une fourchette vraiment très large. Si on veut avoir des chiffres, ce serait donc le premier, donc celui d'enquête 150 000, et jusqu'à éventuellement 450 000, sachant que ce chiffre, encore une fois, est très certainement surestimé. Mais il faut sans doute aller au-delà de cette discussion des chiffres, même si la discussion des chiffres est évidemment toujours nécessaire pour savoir ce qu'on peut faire dire, surtout à ces indicateurs dans le débat public. Parce qu'a priori, l'existence d'emplois vacants n'est pas le signal, pas nécessairement le signal d'un problème. La vacance d'un emploi, elle intervient toujours lorsque, dans le fonctionnement normal du marché du travail, lorsqu'un employeur décide de soit d'ouvrir un nouveau poste, soit de recruter quelqu'un pour un remplacement d'un autre, il y a un certain laps de temps qui s'écoule pour pourvoir cet emploi, et il y a toujours en permanence, de toute façon, sauf à supposer un ajustement instantané entre ces offres et les personnes qui peuvent les pouvoir, il y aura toujours un certain taux d'emploi vacant. Donc la question, ce n'est pas l'existence en soi de ces emplois vacants, mais leur nombre, en comparaison notamment des personnes qui sont susceptibles d'occuper. Et puis on peut s'interroger aussi sur les raisons éventuelles pour lesquelles ces emplois ne sont pas occupés, si au bout du compte, il y en a un certain nombre qui restent inoccupés. Donc là, je vais reprendre les mêmes chiffres que ceux que je vous ai proposés en début. Si on prend le taux d'emploi vacant dans l'enquête ACEMO, donc 0,4%, la source probablement la plus pertinente pour comparer, pour faire une comparaison, disons, parce que c'est une photographie, ça peut être le taux de chômage, qui est estimé lui aussi par l'enquête emploi. Et donc même si les dénominateurs et les numérateurs ne sont pas exactement les mêmes, un taux d'emploi d'un côté, un taux de chômage rapporté à une population active de l'autre, bon, vous voyez un peu la différence, on a quand même manifestement un écart très très important, puisqu'on a un écart de 1 à 25 entre taux d'emploi vacant, 0,4, et un taux de chômage qui frôle aujourd'hui les 10%, sans parler des personnes en sous-emploi. Donc d'un point de vue purement quantitatif, ce résultat ne fait que traduire la réalité qu'on vit dans notre pays depuis 20 ou 30 ans, à savoir qu'il y a un décalage manifeste, il y a des pénuries massives d'emploi font qu'il y a un excès très très large de la demande sur l'offre. Maintenant, si on prend les statistiques administratives, là c'est un petit peu plus compliqué. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la notion d'offre d'emploi non satisfaite, enfin, j'aurais dû enchaîner avec ça après ta présentation. Ce qu'on appelle offre d'emploi non satisfaite, c'est simplement l'écart entre le total des offres d'emploi qui ont été déposées dans une année, j'insiste là-dessus, à Pôle emploi, et les offres qui ont été satisfaites, enfin dont on sait en tout cas qu'elles ont été satisfaites. Donc si on fait ce calcul, par exemple pour l'année 2010, il y a eu 3 265 000 offres d'emploi déposées et 2 824 000 offres d'emploi satisfaites. Donc la soustraction donne un nombre d'emplois, d'offres d'emploi avec beaucoup de guillemets encore une fois non satisfaites qui serait de l'ordre de 440 000. Avec toutes les précautions qu'on vient de vous expliquer pour considérer le niveau de ce chiffre. L'autre question, c'est quel est l'indicateur pertinent pour comparer ce chiffre. Ce qu'on voit souvent dans le débat public, et on a beaucoup de citations, notamment de Nicolas Sarkozy, qui s'est livré à ce genre d'association, disons, ou télescopage assez fréquemment, on compare ce chiffre d'offres d'emploi non satisfaites au stock de chômeurs, enfin de demandeurs d'emploi en fait, observés à un moment donné, avec des variations d'ailleurs sur bien sûr les catégories hein, qui ne sont pas en général toutes prises en compte. Même si on fait ce premier calcul, on a aujourd'hui environ 4,3 millions de demandeurs d'emploi qui sont obligés de faire des recherches actives d'emploi. Je ne parle pas des demandeurs d'emploi qui sont classés en catégorie D ou E, ou de ceux qui sont dispensés de recherche d'emploi, qui sont inscrits à Pôle emploi, mais qui sont dispensés de recherche active pour différentes raisons. Les personnes qui doivent effectuer des recherches actives, c'est 4,3 millions. Donc on aurait un écart déjà de 1 à 10. Mais ce n'est pas le bon chiffre, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, cette notion d'offre d'emploi non satisfaite, elle est mesurée sur une année. Donc il faudrait avoir le volume des demandes d'emploi qui, sur la même année, n'ont pas été satisfaites. On sait que c'est beaucoup plus important. On ne peut pas le chiffrer, parce qu'on n'a malheureusement pas les outils, en tout cas pas l'information pour le faire. Donc on aurait un écart qui serait certainement beaucoup plus important hein, que celui qu'on a déjà spontanément, disons, en prenant le stock, qui n'est pas le bon indicateur pour la comparaison, et puis ce volume d'offres d'emploi non satisfaites. C'est aussi l'occasion de rappeler quand même que quand on est dans ce débat sur le caractère plus ou moins volontaire du chômage, on a observé, comme on l'avait déjà souligné en 2007 et 2008 dans les précédentes notes de la CDC, qu'il y avait de plus en plus d'obligations qui pèsent quand même sur les chômeurs pour la recherche active d'emploi. Donc, avec des risques de radiation, de perte d'indemnisation qui sont de plus en plus lourds pour eux. L'autre élément qu'on peut aussi mettre en débat, c'est que le rapprochement d'un nombre de demandeurs d'emploi avec un volume d'offres qui serait donc satisfaite n'est certainement pas le signe qu'il y a un certain nombre de chômeurs qui ne voudraient pas travailler. Pour arriver à cette conclusion, il faudrait supposer, ce qui était absurde, enfin c'est la supposition, l'hypothèse implicite qu'il y a dans ce raisonnement, que ces offres d'emploi non satisfaites, en quelque sorte, elles seraient adressées uniquement à ces chômeurs volontaires. Elles seraient presque nominativement adressées, bon, ce qui est idiot, s'il y a des gens qui ne veulent pas prendre des emplois, comme de toute façon il y en a 10, 15 ou 20 fois plus qui sont supposés vouloir les prendre, eh bien ils les prendraient. Donc il n'y a aucune raison sauf par un discours qui nous apparaît clairement comme démagogique, de procéder à cette association des chiffres pour en conclure qu'il y aurait 300, 400 ou voire plus de 500 000 chômeurs volontaires. Et d'ailleurs, dans ce débat, qui n'est pas nouveau, mais qui a ressurgi avec la petite phrase de Laurent Wauquiez sur la culture de l'assistanat, le même Laurent Wauquiez avait été interrogé, il avait déjà sévi, si je puis dire, en 2008 sur la même question, et dans une émission qu'on cite à France Inter en juin 2008, on lui avait demandé, mais selon vous, il y aurait combien de chômeurs qui refuseraient des emplois? Et lui avait lâché le chiffre de 5%. Juste faire le calcul, on est loin des 400 ou 500 000. Hein. Et d'après les enquêtes de la DARES, qui interroge les chômeurs, on arrive plutôt à un taux de 2% de personnes qui déclarent ne pas souhaiter, enfin, qui se déclarent chômeurs mais ne pas souhaiter travailler. Et dans l'essentiel des cas, ce sont des personnes qui ne souhaitent pas le faire pour des raisons de santé. Enfin, je crois que on rappelle aussi notre réalité, qui est issue d'une enquête qui avait été menée sur les trajectoires des allocataires du RMI. La première réalité, c'est que pour refuser un emploi, il faut savoir proposer un. Ça semble évident, mais pour notamment les RMistes ou les ex-RMistes concernés, ça l'a été beaucoup moins. On rappelle quelques chiffres issus de l'enquête dont je vous parlais. Les trois quarts, plus des trois quarts des RMistes effectuent des démarches de recherche d'emploi. Quand ils effectuent ces démarches, à peine un sur deux reçoit une réponse. Hein, et lorsqu'ils reçoivent une réponse, le taux de satisfaction, le taux de réussite en quelque sorte à leur demande est excessivement faible. Donc la première, une autre réponse, c'est que en fait, comme les gens qui bénéficient des revenus minimums, comme le RSA, dans la plupart des cas, ne se voient pas proposer de nouveaux emplois, ils peuvent difficilement les refuser. Donc on est vraiment dans l'ordre, encore une fois, d'un discours démagogique qui repose sur des stéréotypes. On rappelle aussi dans cette note en introduction que le Conseil national de lutte contre les exclusions a d'ailleurs exprimé sa réprobation par rapport à ces propos, et puis surtout souligné que c'était une méconnaissance profonde de la réalité du fonctionnement du marché du travail d'abord, et de la réalité aussi vécue par les allocataires et leurs familles. Et le dernier point qui nous semble en revanche pas mis en débat mais qui est important, qu'on pourrait résumer d'une formule en disant s'il n'y a pas de mauvais chômeurs, il y a peut-être de mauvais employeurs, c'est la question de la qualité des emplois occupés. Et là, on a clairement, on donne un indicateur, on n'a pas fait une étude sur la précarité, la dégradation du marché du travail, mais il y a un indicateur quand même qui nous semble très significatif, c'est qu'aujourd'hui, dans la population des demandeurs d'emploi indemnisés, 35% d'entre eux occupent un emploi, de fameuses activités réduites, mais pourtant ils restent encore inscrits à Pôle emploi, parce qu'ils sont insatisfaits, ils recherchent autre chose. Donc ils acceptent ces emplois faute de mieux, on va dire, ce qui est le signe d'une dégradation du marché du travail. Quand on compare ce taux de 35% à ce qu'il était au début des années 90, où on avait environ 10% des demandeurs d'emploi dans la même situation. Donc on est vraiment dans ce discours gouvernemental à front renversé. C'est-à-dire je terminerai là-dessus, on signale un faux problème, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement il n'y ait pas quelques demandeurs qui pourraient refuser des emplois, mais d'abord il faudrait s'interroger sur les raisons, et c'est certainement pas massif. En revanche, ce qui est massif, c'est la dégradation des conditions d'emploi des chômeurs et des travailleurs. Et donc, c'est, encore une fois, le développement de cette catégorie qu'on pourrait appeler des chômeurs-travailleurs, hein, qui ont un demi-pied dans l'emploi et sans doute un peu plus dans le chômage, est le signe qu'on n'est certainement pas en face d'une question qui est celle d'un chômage volontaire, mais beaucoup plus dans celle qui continue de rester la pénurie massive d'emploi et la dégradation plus générale des conditions d'emploi et de salaire qui accompagnent ces pénuries.
Connaît-on dans les emplois non pourvus le pourcentage d'emplois qui ne seraient pas pourvus pour des raisons techniques, c'est-à-dire métiers n'existant pas, qualifications n'existant pas non plus, enfin des choses comme ça?
Technique, de quel point de vue? Du point de vue des... Il n'y a personne qui pourrait occuper ces emplois.
Oui, par exemple, des ascensoristes, avec la remise aux normes des ascenseurs, tous les gens qui s'occupent de faire ces mises à jour, retardent leur chantier parce qu'ils n'ont personne. Mais il semble que... Alors c'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire que peut-être aussi que s'ils embauchent des métiers qui sont techniques, qui ne sont pas des métiers de manœuvre, hein, ils peuvent pas les embaucher pour une période qui va être relativement courte, c'est-à-dire la mise à jour d'un matériel, d'un parc de matériel qui, après, une fois qu'il sera mis à jour, il y aura besoin de beaucoup moins de gens. Non ? Est-ce qu'on distingue ça ?
C'est chaud.
Oui, là, c'est répondre en termes de chiffres, bien sûr, je n'aurais pas de possibilité. Mais là, ce qu'on peut constater à ce moment-là, c'est que c'est vrai que des emplois avec des salariés en CDI qui auraient bénéficié par l'entreprise de remises à niveau constantes dans leur
métier.
Aujourd'hui, effectivement, les mêmes personnes peuvent se retrouver handicapées du fait même de la précarité de leur emploi et par le fait que finalement les entreprises se désengagent sur l'État, sur les régions, etc., pour refaire ces formations d'adaptation qui n'existent pas nécessairement, effectivement.
Quel rôle joue l'enquête PMO pour vous, justement, dans peut-être l'appréciation des difficultés de recrutement, etc.?
Alors, c'est vrai que en interne, Pôle emploi valorise beaucoup cette enquête BMO. Sur le terrain, quand on va voir les entreprises dans les secteurs qui seraient censés embaucher, on n'a pas le sentiment d'avoir du tout le même niveau de recrutement qu'annoncé. On a quand même parfois l'impression que, justement, dans ce jeu de qui prendra en charge les formations d'adaptation, qui prendra en charge cet effort, il y a un surenchérissement des entreprises sur les difficultés qu'elles pourraient avoir à recruter. Sans compter quand même que la même enquête PMO manifestait quand même le fait que c'était surtout des emplois saisonniers qui étaient recherchés.
Ouais, donc au final, en fait, vous êtes en fait d'accord avec, parce que la semaine dernière, on a vu Christian Charpie qui nous présentait le rapport d'activité de l'opérateur et qui nous a dit qu'il n'y avait pas de... On a interrogé sur cette question des emplois vacants. Il nous a répondu qu'il n'y avait pas de mesure unique des emplois vacants, que le plus fiable, c'était au final l'enquête ACMO. Donc vous allez dans ce sens-là ou pas, en fait ?
La moins mauvaise mesure des emplois vacants, c'est probablement, je pense, oui, l'enquête assez... Tu étais au courant de cette déclaration ?
Non,
je...
Il n'y
a pas de mesure unique, etc. La seule mesure à peu près certaine, c'est les emplois vacants encensés par l'enquête ACMO et par l'internet. C'est à peu près ce qu'il nous a dit.
Oui, oui. Si vous voulez, c'est une chose qu'on dit souvent, mais qu'il faut... peut-être encore retirer davantage sur ce type d'indicateur, c'est que on peut s'intéresser au nombre d'emplois vacants, mais dans l'absolu, bon, c'est des informations très faibles.
Le débat politique va toujours aller chercher pour le remettre.
Oui, mais c'est par rapport à quelle question on veut la situer. On peut avoir différentes questions par rapport aux emplois vacants. Donc la question implicite dans le débat, en tout cas celle qu'on apporte surtout dans cette note, c'est est-ce que c'est un indicateur pertinent du fait qu'il y aurait des chômeurs qui n'accepteraient pas les emplois. La réponse qu'on apporte, c'est clairement non. Compte tenu du volume, du peu d'éléments qu'on a, mais on aura quand même un volume faible, surtout en comparaison européenne, et surtout en comparaison avec le taux de chômage, montre que ça correspond à peu près à ce qu'on peut connaître du fonctionnement normal de la recherche d'emploi, enfin de la recherche plutôt de salariés de la part d'un employeur, c'est certainement pas le signe d'un dysfonctionnement majeur de ce côté-là. Voilà. Maintenant, on peut se poser d'autres questions, je ne sais pas trop laquelle, on est heureux d'apprendre d'une certaine façon que le directeur général de Pôle emploi.
Dépendamment dans quel PMO.
Oui.
Je crois bien que c'est vraiment la première fois qu'il fait une déclaration en ce sens-là là-dessus.
Bon, il se lâche un peu depuis qu'il s'est qu'il
a... Ah bon.
Un petit peu. Un petit peu. C'est beaucoup plus que ça.
Non. Est-ce que vous mènerez une réflexion toujours dans les débats qui sont amenés par la politique comme ça sur l'immigration professionnelle? Est-ce que ça peut être quelque chose qui sera dans le programme de travail?
Il n'y a pas de chiffre.
On n'a pas prévu de
l'utilisation statistique.
Point de départ, c'était quand même la question du chômage, des besoins d'emploi non satisfaits. Je ne pense pas qu'on aille sur ce terrain-là qui est à la fois relativement complexe et qui est, alors pour le coup, chargé d'encore davantage de stéréotypes.
Oui, mais c'est un point sur lequel toutes les réponses intelligentes sont bonnes à prendre. Et ne pas aller sur ce terrain-là, c'est franchement, il faut répondre à Claude Guéant. Refuser d'aller sur ce terrain-là, je trouve que c'est que le refus mérite d'être prépayé intellectuellement, je veux dire, parce que c'est trop facile. Sinon, je veux dire, on laisse tout le monde dire n'importe quoi. Et je veux dire, quand vous étiez en train de parler, que vous disiez le gouvernement est à front renversé, je me disais, et vous, est-ce que vous n'êtes pas à front renversé aussi, pardon, mais les dernières conneries de Guéant sur « mais on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur des cuisiniers, des plombiers, bon, etc. » Alors peut-être que les journalistes de télé ont fait très mal leur travail, mais le soir même, en tout cas à France 2, il y avait un reportage sur un restaurateur qui n'avait que des gens d'origine étrangère, qui disaient tous « mais les Français ne viennent pas parce que ces jobs sont trop mal payés. » Alors après, ça fait référence à quel salaire, quelles conditions de travail, etc. Mais c'est des domaines dans lesquels on a besoin, pas seulement de discours, on a besoin de choses pour étayer l'opposition au discours ambiant de la droite et de l'extrême droite. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous en tirer en disant
soyons clairs, je ne m'en tire pas comme ça, c'est pas du tout le sens de ma réponse. D'abord, j'ai deux éléments à réponse à porter là-dessus. D'abord, comme vous le dites, on ne répond pas à des conneries par. Ce qui est de l'ordre de l'irrationnel, je pense qu'on n'y répond pas. Et vous, juste terminer ce que je veux dire. Et vous venez vous-même d'apporter des réponses. Et quand les journalistes font leur travail, ils apportent des réponses. Donc moi, j'ai envie un peu de vous renvoyer aussi les séries. Voilà, il y a un reportage à France 2 qui montre que la réalité n'est pas celle-là. D'autre part, je vous signale, c'est un point d'appui, que cette question a déjà été abordée, pas par le collectif, mais par d'autres associations. L'association CERC avait publié, si ma mémoire est bonne, au début des années 2000, un dossier, immigration, emploi, chômage, qui faisait un bilan des approches théoriques de ces questions et une analyse des données empiriques.
Oui, mais c'est loin, les années 2000.
On est sur des phénomènes structurels. Moi, je veux bien qu'on... à ma connaissance, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais...
Rien n'a été fait de solide depuis cette enquête-là, c'est ça ?
Sur les approches théoriques, vous avez aussi l'OCDE, quand même, qui, sur ces questions-là, sur la question des migrations et des migrations, publie des analyses très sensées et très intéressantes. On est, nous, un modeste collectif avec des forces limitées et des gens qui militent aussi sur d'autres terrains, donc on peut pas ma réponse n'était pas... D'abord, c'était juste ma réponse. Peut-être qu'on prendra une décision collective qui dira que c'est une question essentielle, prioritaire, et que...
Non, mais
on va passer l'été à faire ça.
À droite et à l'extrême droite tout le temps.
Oui, mais si vous voulez, je vois bien. Mais vous voyez bien aussi que la capacité, la force de la communication gouvernementale, c'est que dès qu'un ministre ouvre la bouche, il a forcément 15 micros pendus à ses lèvres et que c'est répété en boucle pendant 3 jours. Donc, effectivement, à ce jeu-là, de la communication audiovisuelle et surtout télévisuelle, il est exclu, enfin, à mon avis, ça c'est mon modeste avis, qu'on puisse avoir quelques formes de concurrence. On peut apporter des aides. Voilà, je pense, hein, sincèrement, mais bon, ça, c'est un autre débat. Ça ne veut pas dire, encore une fois...
Débats prévisibles, il y a des mauvais débats prévisibles, il y a des débats difficiles, des débats prévisibles. Vous faites ce que vous voulez. Je vous dis ça, y compris pour vous, en fait.
On voit bien les débats qui vont se profiler à la raison.
Mais oui, j'imagine bien que vous les voyez.
Il y a un débat depuis 30 ans, il y a un débat aussi, ou plus, enfin, qui ressurgit à chaque fois, sur, par exemple, est-ce que les immigrés coûtent plus ou moins cher.
Oui.
Voilà. Donc on vient d'avoir un rapport... Il y avait eu à une époque un rapport d'élèves de l'ENA qui avait aussi abordé ces questions.
Oui.
On peut... Oui, mais bon, je veux dire... voilà, c'est... Nous, on a... si vous voulez, je répondais par... Enfin, je vais peut-être laisser la parole à ma camarade. Mais je répondais par rapport à le sens de notre démarche, si vous voulez. Nous, avec le collectif ACDC, sur une question qui nous semble importante, celle du chômage et de l'emploi, on a d'abord, en 2007-2008, dévoilé un petit peu quand même un certain nombre de manipulations qui étaient faites, et mis en situation de veille aujourd'hui pour éviter, autant que possible, qu'il y ait ce genre de manipulation. Parce que ça nous semble une question qui reste majeure dans le débat public. Voilà, et peut-être qu'il y aura d'autres forces qui se mobiliseront pour répondre à d'autres questions. Hein, on peut l'espérer. Mais dans le fil de ce qui était notre démarche, ma réponse, elle semble me dire que ce n'est pas forcément là qu'on va aller. Mais je m'arrête de parler.
Pour laisser là, la réponse que tu as donnée me va très... Moi, je vais y apporter un autre élément, bien qu'en tant que représentant collectif du mouvement national des chemins de la guerre, c'est vrai que dans le collectif, notre préoccupation première, c'est la vérité économique et sociale des chiffres du chômage. Maintenant, sur le plan de l'opportunité, dirais-je, il est indispensable que les associations concernées, pas forcément le collectif qui n'a pas cette vocation, qui n'est pas équipé pour, en plus, fassent une réponse sur ce terrain-là. Mais j'ajouterais que la réponse n'est pas facile, parce qu'on manque de matériaux. Les informations qu'on peut avoir dans le domaine du travail étranger sont quasiment inexistantes.
D'où l'importance de le rappeler.
Absolument. Donc, comme dans un certain nombre d'autres domaines, et là qui vont évoquer quelques petites choses, mes camarades statisticiens, il y a des affirmations en matière de travail immigré relèvent plus du fantasme que de la réalité. Globalement, d'ailleurs, le problème de l'immigration en France relève du fantasme. Je lisais récemment quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Aujourd'hui, en France, la proportion d'immigrés est moins importante qu'en 1910. Ce qui relativise quand même toutes sortes de problèmes. L'incidence sur le chômage est très difficile à cerner pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne publie pas, à ma connaissance, de statistiques par nationalité, premier élément. La deuxième chose, il faut bien comprendre que dans des secteurs comme la restauration ou le bâtiment, il y a une grande partie de travail
dissimulé.
Et on n'a pas d'autres statistiques que celles qui pourraient émaner de l'inspection du travail sur lequel il y a une omerta complète. Donc, on manque totalement de matière à analyser, de matière à réflexion, si bien qu'à partir de là, tout est permis au niveau de l'expression. Et j'entends bien qu'il y a une dérive du discours politique vers certains thèmes, l'assistanat, les travailleurs étrangers qui viennent manger le pain des Français, etc. Sur ce terrain-là, si vous voulez, on peut apporter une contradiction. Mais je ne suis pas sûr que notre contradiction soit mieux assise que leurs affirmations. Vraiment, je crois profondément, à moins que M. Guéant nous sorte ses statistiques, ce que j'aimerais bien, on va se retrouver avec des affirmations comme celles qu'on connaît en matière de chômage. Le chômage baisse depuis 4 mois, alors que les affirmations de M. Bertrand sur ce plan-là sont totalement démenties par les propres chiffres qu'il cite. sur lesquels il y a beaucoup de réserves de quant à la fiabilité et à l'exploitation qu'on peut en faire. Et nous essayons, en tant qu'association et aussi en tant que collectif, d'avoir une démarche, je dirais, sérieuse, une démarche pertinente et une réflexion. Le discours actuel relève de tout sauf de ça.
D'accord, mais on est dans une présidentielle dans laquelle vous avez, face à une présidentielle dans laquelle on a un risque malheureusement relativement élevé d'avoir Marine Le Pen
au deuxième tour.
Je veux dire, il y a des sujets, mais y compris pour
dire. C'est Marine qui est la plus virulente hein, sur ce terrain-là.
Oui, enfin, y compris pour dire que les statistiques n'existent pas, que les données manquent. Qu'elles sont imparfaites, etc. Mais bon,
encore une fois, en tant qu'association, on réagit contre ce genre de propos. Mais encore une fois, j'insiste, notre réponse est plus, j'allais dire, plus de l'émotionnel que réellement de l'analyse et de la réflexion, faute d'éléments.
D'accord. L'autre chose que je voulais vous demander, c'est que je trouve qu'on a un vrai problème avec le chômage dans les DOM. Bon. Au sens où on l'intègre pas, on n'en parle pas. Et finalement, on a très très peu de choses là-dessus, sauf à y aller, évidemment. Est-ce que il y a des travaux, ou est-ce que vous avez vu passer des données éventuellement un peu plus élaborées que celles qu'on a tous les mois, qui permettraient d'approcher de manière un peu plus satisfaisante cette réalité.
Je vais faire un tout petit topo vu de mon point de vue. Oui, moi ce que je regrette, c'est que le commentaire, il est fait, le commentaire de l'INSEE, il est fait sur plutôt la France métropolitaine que sur le taux de chômage de France entière. Puisque le commentaire, il est fait, le taux de chômage baisse au premier trimestre, et ça concerne la France métropolitaine, mais si on prend France entière, c'est stable. Donc moi, je trouve ça plutôt... Un autre choix aurait pu être fait, c'est de faire le commentaire sur France entière, et ça serait quand même assez logique. Voilà. Deuxième chose, c'est que sur le thème du verre à moitié vide et à moitié plein, donc le verre à moitié vide, c'est que les DOM ne sont pas encore dans le processus normal de l'enquête emploi trimestrielle.
D'accord.
Et que le verre est en train de se remplir puisque l'INSEE est en train de travailler à étendre l'enquête emploi en continu, y compris sur les DOM. Bon, il y a un retard statistique sur les DOM qui est évident, qui n'est pas que sur le thème du chômage d'ailleurs, hein, enfin, sur le thème de l'enquête emploi qui permet d'avoir un peu des visions sur le marché du travail, mais qui est aussi sur d'autres domaines. Bon, l'INSEE, visiblement, travaille à le combler, ce qu'on pourrait... Mais bon,
certainement. L'horizon, c'est quoi, vous savez ? Enfin,
J'ai plus le souvenir en tête exactement, mais je pense que les moyens ne sont pas suffisants pour. Sur la question spécifique des DOM, le rattrapage commence de. Enfin, est en place depuis des années, des 10 ans, 15 ans, enfin bon. Mais il reste. Enfin, je sais pas.
Le travail n'est pas terminé.
Oui, le travail est loin d'être terminé. Voilà. Il y a un manque de volonté sans doute aussi de ce côté-là.
On a quand même quelques données qui sont publiées périodiquement par département, donc avec des données d'hommes.
Il doit y avoir des données annuelles qui
sont
de demandeurs d'emploi. Moi je parlais du côté chômage qualité. Sauf erreur, ce n'est que annuel.
Oui.
Enfin, forcément, ce n'est que annuel. Enfin, il faut voir qu'on part d'une situation qui était encore plus catastrophique que ça. C'est qu'il y a eu une période où l'enquête emploi n'était que bisannuelle, enfin, qui était tous les deux ans, je ne sais pas si c'est bisannuel. Enfin, bref, vous m'avez compris. Donc là, on en est, sauf erreur, à l'annuel et qu'ensuite, on va aller au trimestriel. Mais bon, on part de tellement bas qu'effectivement, tout progrès paraît quelque chose de fantastique, mais bon, on part bien de très très bas. Et il y a un travail énorme sur le sujet.
Récemment, il y a un choix politique qui a été fait et maintenu depuis des années de s'intéresser moins à la situation locale qu'on s'intéressait à la métropole. Il est vrai que ce choix a été, si j'ose dire, heureusement confirmé par une dégradation totale du marché local de l'emploi qui plombait les statistiques Donc, mais c'est vrai que
le taux de chômage dans les DOM, les derniers chiffres que j'avais, c'était de l'ordre de 20 à 25%. Le taux de chômage au sens du PIB,
Dans l'information chômage que vous n'avez pas cette fois-ci, mais qui accompagne normalement les notes thématiques, disons, qu'on publie chaque trimestre, nous on croit ça dans des estimations systématiquement France entière, avec toutes les limites que ça peut avoir, y compris du côté des enquêtes emploi et du côté. On voulait justement nourrir un petit zoom sur les DOM. Et si vous vous intéressez vraiment aux questions, effectivement, dans chaque direction régionale de l'INSEE, vous avez chaque année une analyse relativement fouillée du chômage à partir de l'enquête emploi, mais annuelle.
D'accord.
Avec un relatif grand détail sur la situation de chômage dans ces départements. Pour l'instant, dans ma connaissance, Mayotte n'est pas concernée par ce. Faut poser la question avant que ce soit, avant que dans un siècle on se dise qu'il faudra le faire.
Merci.